Monsieur Gasconadon, bonjour.
Salut, comment ça va?
Très bien, fait beau, beaucoup de monde, tout le monde est de bonne humeur, on peut pas demander mieux. Et je pense qu'il y a plusieurs partisans de hockey au Canada qui se sont peut-être couchés fâchés, mais réveillés heureux après avoir vu l'atroce début de match des Oilers d'Edmonton. On l'explique comment ce début de match-là, Arnaud?
Ben écoute, non mais c'est, je réfléchissais à ça parce que, écoute, cet après-midi, Seb, j'étais en session de créative avec mon partenaire de travail sur la ligne des mêlées, Monsieur Arnaud Pepperall, surnommé Pepper pour les intimes. Et Pepper est un ancien joueur de hockey, puis Pepper, ben on jasait toutes sortes d'affaires, puis j'y parlais d'une espèce de, on parlait du match de hier soir, puis j'ai dit quand je jouais. J'ai dit, dans la centaine, voire presque, je sais pas combien de matchs j'ai joué en carrière dans ma vie au football, sûrement 150, 200. Mais juste au niveau professionnel, je pense que j'étais à peu près à 100. Mais j'ai jamais eu peut-être plus que 10 fois dans ma vie un moment, un match parfait. Tu sais, le match où tu te réveilles, tu te sens bien, t'es pas fatigué, tu arrives au match, t'as pas de baisse d'énergie, t'es pas trop stressé, tu sais, que tout soit parfait, là, comme le nuage, là, l'extase du sportif. Je pense que j'ai vécu ça peut-être une dizaine de fois. La dernière fois que je l'ai vécu, c'est à la finale de la Coupe Grey en 2016 avec Ottawa. Écoute, pour te raconter, puis les gens à la maison, là, le dernier match de la saison, j'étais pas capable de faire l'échauffement du match sans prendre des anti-inflammatoires. Donc, j'étais pas capable de courir sans prendre des anti-inflammatoires. Donc, mais j'y prenais le plus tard possible avant le match pour qu'il fasse effet le plus longtemps possible. Donc, je faisais ma session d'échauffement avant le match, puis je boitais sur le terrain, littéralement. Là, j'avais de la misère à pousser sur ma cheville. Puis ça, c'était 3 semaines avant la Coupe Grey, 2 semaines avant la Coupe Grey. Donc, après ça, tu as une petite semaine de congé, tu joues le match d'après, puis tu joues la Coupe Grey. Donc, la Coupe Grey, pour moi, toute la saison, je me disais, je suis tellement magané, là, comment je vais faire pour jouer? Puis je me souviens de ce match-là où, écoute, il était... Dans l'échauffement, j'avais de l'énergie à revendre. J'en avais pendant la journée. Tout était parfait. Là. J'ai pas eu de baisse d'énergie. J'avais pas mal à ma cheville. Tout était parfait. Puis j'ai rocké ce match-là. Puis ça a été extrêmement bien. Puis après ça, le sportif, ben il essaye tout le temps de répéter, en tout cas de trouver une façon de répéter cette extase-là. Puis je parlais de ça justement à Pepper tantôt. Puis je disais, j'avais déjà entendu Georges St-Pierre qui disait à recommencer, probablement qu'il jeûnerait la journée du combat, puis il arriverait à jeun pour se battre parce que c'est là où mentalement il est le plus efficace. Moi, tu vois, depuis que j'ai arrêté de jouer, mes matins où moi aussi je mange pas maintenant les matins, je suis complètement à jeun jusqu'à midi 1h. Je suis très très allumé genre mentalement. Puis c'est ce genre d'extase là mentale que je recherchais quand je jouais. Mais c'est difficile à atteindre ça quand tu joues à 7h le soir parce que des fois tu manges quelque chose, une grosse dose de sucre, puis après ça ton énergie rebaisse. Ta sieste, ça fonctionne pas. Puis j'ai regardé les Oilers hier, puis je faisais, hey, t'es en finale de la Coupe Stanley. On se rappellera encore le vidéo de Connor McDavid l'année passée après le match. Je me rappelle pas quel match, mais où il avait perdu. C'est peut-être le match numéro 3 ou le match numéro 2. Puis Connor pète un cap dans la chambre des joueurs. Puis il dit, tu sais, it's right fucking now. Là. Give everything you got. Tu sais, on est rendu jusque là. On va pas se présenter une game là. Tu sais, je veux dire, c'est impossible de penser ça. Ouais. Mais force est d'admettre que t'es dans des moments tellement intenses comme ça, puis des fois, le corps ne suit pas. Puis comme fan, des fois, tu regardes ça, tu te dis, ben voyons donc, Edmonton, comment tu peux sortir de même en finale de la Coupe Stanley à 3-0, puis te faire battre après une période, comment tu fais pour pas sortir? Tu perds déjà 2-1. Si tu perds en Floride, la série est presque finie, là. Comment tu fais pour pas te présenter? Puis des fois, tu fais pas exprès comme athlète. Tu te présentes là, puis les jambes sont pas là, l'énergie est pas là, puis c'est dur à expliquer pourquoi. Mais c'est pas là. Puis je me rappelle même, il y a quelques années, je travaillais sur un projet, puis le Comité olympique canadien était venu nous voir à Montréal sur le projet sur lequel je travaillais, notamment ça serait long à expliquer tout ça, mais je travaillais sur un projet d'innovation, notamment en détection. Puis la question du Comité olympique canadien, c'était de dire, est-ce qu'on est capable de faire en sorte qu'un athlète soit capable de répéter le perfect performance? L'espèce de gamification, là, si tu veux, là, on répète la journée même, on est capable de copier-coller la recette parfaite pour qu'un athlète qui se sent bien, qu'est-ce qu'il a fait la veille, qu'est-ce qu'il a fait la semaine avant, on est capable de ça, la répéter, et toujours faire en sorte que ça arrive. Écoute, personne n'a la réponse par rapport à ça. c'est extrêmement bizarre à expliquer parce que, et en plus, c'est dans le concept de sport d'équipe, il y en a la moitié qui peuvent être bien, l'autre moitié qui peut ne pas être bien. Puis comment tu fais pour optimiser le fait que dans un match, même aussi important que celui-là, le corps suive l'esprit ou l'esprit suit le corps, puis c'est tellement difficile à faire. Puis des fois, tu commences pas en même temps, des fois, tu vas retrouver cette source d'énergie-là une heure après le début du match. Il faut que, pour une raison obscure, t'es pas capable de commencer en même temps que le début du match. C'est bien difficile à expliquer, mais en tout cas, bravo aux Oilers d'être revenus de l'arrière puis de l'avoir apporté, puis d'avoir trouvé une façon de limiter les dégâts quand l'équipe était pas prête, mais de trouver l'extase de la performance sportive, là. Même moi, comme je disais tantôt, j'ai tellement rarement réussi à atteindre ça que je regarde les Oilers hier puis je peux juste avoir de la compassion. Parce que des fois, tu peux l'avoir pendant 99% de l'année puis juste tu l'as pas au bon moment à la fin puis c'est aucunement facile à expliquer, puis ça se passe juste pas, puis tu vis avec ça. C'est tout qu'un mystère, ça, puis je sais qu'il y a beaucoup encore d'avancées technologiques qui s'en vont pour comprendre ça, mais on l'a vu hier, tu sais, je parle à tout le monde à la maison, des fois comme fan, tu dis, ben voyons donc, tu t'es pas présenté, je vous le jure, là, les gars font pas exprès.
Arnaud, tu m'inspires une question à deux volets. Je vais te présenter mon premier volet d'abord. Un volet pharmaceutique. Je sais pas si tu as entendu parler des Enhanced Games qui sont prévus pour Las Vegas l'an prochain. Des jeux où on va permettre aux athlètes de prendre des drogues qui vont augmenter les performances sous supervision. Est-ce que l'avenir est vers ce niveau-là? Mais là, tu te mets à jouer avec la santé des athlètes.
Ouais, exact. Mais ça, Seb, les Enhanced Games de 2025, en fin de compte, c'est juste les Jeux Olympiques de 96.
Ou 88, ouais.
Ou 88. C'est un peu la même chose.
Mais, parce qu'on s'entend mais non, que c'est ce genre de produit-là pourrait, entre guillemets, assurer des performances à chaque fois.
Ben écoute, moi, je m'étais déjà fait dire par un ami à moi, son père était pharmacien, puis on parlait justement, j'avais des questions par rapport à ça, le pharma, quand je jouais, parce que tu sais, écoute, t'entends parler des stéroïdes, t'entends parler de tellement d'affaires que des athlètes professionnels prennent ou des athlètes aux Olympiques prennent, puis un peu, t'es là à te bûcher dans la salle de gym puis dans la piste d'athlétisme, puis tu dis, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que ça serait si je faisais ça? Qu'est-ce que ça pourrait faire? Donc, tu poses des questions. Puis moi, je me souviens qu'il y avait un pharmacien qui m'avait dit, un gars qui avait plusieurs pharmacies, qui m'avait dit, tu sais, Arnaud, il a dit, il y a beaucoup de monde, Ray Lewis était sorti, avait testé positif dans la NFL à un produit qui était une espèce de crème. Il y avait eu une blessure au triceps, je pense, puis finalement, avait joué le Super Bowl, il s'est déchiré le triceps, puis finalement, avait joué le Super Bowl avec les Ravens. Puis il avait testé positif à une crème utopique avec des hormones de croissance sur la crème. Puis je me souviens que j'avais posé la question au pharmacien, puis j'avais dit, mettons, hormones de croissance, c'est quoi? Il dit, hormones de croissance, il dit, il y a rien qu'on est encore capable de trouver de nocif par rapport à ça pour l'être humain. Donc, on le proscrit parce qu'on c'est pas dans la règle de l'art. Mais est-ce que le pharma ou est-ce que les produits externes un jour vont faire en sorte que l'athlète va devenir presque un robot, va atteindre des niveaux inespérés de performance humaine. Et est-ce que ça peut se faire en santé? Quand on va atteindre ça, c'est-à-dire que, par exemple, tu vas pouvoir augmenter ta performance, mais le faire tout en restant en santé, donc il n'y aura pas d'effet secondaire nocif à long terme, là, ça va devenir un débat intéressant parce que la plupart des choses qui sont sur le marché en ce moment, comme l'EPO, par exemple, dans le cyclisme, ou on l'a vu dans l'MMA aussi, sont des drogues très performantes à court terme, mais ont été prouvés pour avoir des effets négatifs à long terme. Mais quand on va atteindre l'utopie, si tu veux, justement le enhanced game, mais contrôlé, puis même à la limite genre bénéfique pour l'être humain, je pense à un gars qui s'appelle Brian Johnson qui fait des segments qui s'appellent Don't Die sur sa chaîne YouTube et sur la plateforme X. Ben lui essaie de vivre jusqu'à 150 ans. Là. Donc quand on va atteindre ce genre de relation là entre le pharma puis la performance de l'être humain. Là, ça va devenir un débat intéressant parce que si, par exemple, ça rehausse ta santé et ça rehausse ta performance, ben là, est-ce qu'on va pas se poser une question en disant, bon, ben, est-ce qu'à partir de maintenant, on devient un espèce d'humain slash robot, là, tu sais, puis on l'accepte puis on passe à d'autres choses pour rendre la vie plus agréable, pour rendre le sport aussi plus impressionnant. Ça risque d'être un débat de société qui est intéressant puis c'est sûr et certain qu'on s'en va vers ça, à mon avis.
Le plus drôle, c'est que les deux mots sont tellement proches. On va passer de « on le proscrit » à « on le prescrit ». Ça va devenir une prescription pour améliorer. Mais je t'amène sur un autre volet où là, il y a peut-être une zone grise. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait pas aider à améliorer les performances des athlètes?
Moi, je pense que oui. Tu vois, je pense que c'est déjà quelque chose qu'on utilise beaucoup, je pense, dans le développement des athlètes, dans le Justement, tu sais, la question que moi j'avais eue il y a quelques années du Comité olympique canadien qui était venu nous voir pour des questions justement par rapport à la technologie qu'on avait entre les mains, c'était justement est-ce qu'on est capable de reproduire une préparation d'une performance parfaite. Donc, d'une certaine façon, si tu commences à avoir un assistant de ta bonne santé ou un assistant de tes performances qui est le Jarvis de Iron Man, mais dans ta performance d'athlète, qui pourrait calibrer à tous les jours, 24 heures sur 24, les aliments que tu consommes, la fatigue que tu as, tes biomarqueurs. Tu sais, on sait que le Oura Ring, par exemple, est une version très bêta de ce que ça pourrait devenir à long terme. Le Apple Watch, le Whoop, le bracelet Whoop, c'est toutes des avancées technologiques vers un peu le... Quand tu crées un joueur à Madden, par exemple, ou à NHL, tu décides de son poids, de sa grandeur, de sa vitesse, de sa force. Bref, le but, c'est à un moment donné de pouvoir avoir un accès illimité par rapport à tes performances puis à ta bonne santé, puis que ça ait un impact majeur. Si, par exemple, l'intelligence artificielle ou un programme d'informatique qui pourrait te suivre à tous les jours et te donner peut-être un indice par rapport ou un conseil par rapport à ta santé et que ça réellement a un impact très précis, voir par exemple, écoute, tu as besoin de dormir 8h21 demain pour optimiser ta performance. Et là, l'athlète remarque que s'il dort vraiment 8h21 et il suit ce que son assistant de ChatGPT de santé lui dit, ben là, le 10 fois où moi je me suis senti bien saute à 40, à 50. Et là, on va voir vraiment les athlètes suivre l'intelligence artificielle dans leur préparation de façon plus intense et on va voir les performances augmenter. Donc moi, je pense que oui, c'est sûr, l'intelligence artificielle qui se met à suivre un athlète et là bâtit sa base de données à long terme et peut être un outil extrêmement précis et nécessaire pour le développement d'un athlète. Je pense qu'on peut encore penser que les athlètes vont être optimisés encore plus à l'avenir et on pourrait avoir des performances éblouissantes, là.
On poursuit avec Arnaud Gascon-Nadon. Arnaud, je sais pas si tu étais des nôtres en début d'émission quand Max Talonde nous disait que, à ses yeux, quand il faisait des sondages avec la foule ici sur la rue Crescent, au-delà de 50%, presque 70% des gens étaient de l'extérieur pour venir assister aux festivités du Grand Prix ce week-end, un événement important. Il y a des gens de partout en ville qui portent les couleurs. Est-ce qu'à tes yeux, le Grand Prix va rester à Montréal à long terme?
Ben, moi, j'espère, en tout cas. Moi, j'espère que le Grand Prix reste à Montréal à long terme. Je pense qu'il y a une niche extraordinaire dans le monde de la F1 à Montréal, qui est comme un peu une mini-Europe, mais en Amérique du Nord. Il y a un contrat jusqu'en 2031. Une chose qui est sûre, c'est que, tu sais, on a entendu beaucoup de fois l'administration Plante parler pas nécessairement en bien du Grand Prix toujours, tu sais, puis c'est, il faut se rendre compte à quel point on est chanceux d'accueillir le Grand Prix on est chanceux d'accueillir le Grand Prix de la F1. Tu sais, il y a une relation là-dedans où il faut comprendre qui est chanceux et qui rend grâce à l'autre personne. Tu sais, puis je pense que d'une certaine façon, le Grand Prix était peut-être acquis pendant longtemps à Montréal, peut-être en la présence de Gilles Villeneuve il y a longtemps comme pilote chez Ferrari qui était extrêmement populaire et talentueux. Son fils Jacques Villeneuve aussi qui était ici et là, il y avait un engouement et Jacques faisait le pont entre la francophonie en Europe et la francophonie en Amérique, puis bref, ça marchait très, très bien avec le monde de la F1. Tu sais, est-ce qu'on a encore, est-ce que le Canada ou est-ce que le Québec a encore cette figure-là en ce moment pour légitimer, en tout cas, l'association encore entre Montréal et le Grand Prix de la F1? Je pense pas, puis je pense que là-dedans, on a beau dire que la F1 a ses défauts, là, mais je veux dire, il y a toujours quelque chose qui me chicote par rapport à ça, c'est que si la F1 n'est plus à Montréal, le Grand Prix va pas arrêter d'exister, là. On va juste aller ailleurs. Genre, à un moment donné, on peut toujours se dire, ah, mais nous, on n'accueillera pas ça parce que nous, on est ci, puis nous, on est ça. Mais si le Grand Prix quitte Montréal, c'est 100 millions de dollars par année qui rentrent pas dans les coffres de Montréal. Puis, pour moi qui l'invente, c'est ça que les chiffres démontrent. C'est 70 millions, je pense, à peu près, j'arrondis ça autour de 100, là. C'est 100 millions de dollars qui quittent Montréal et on n'a rien pour le remplacer parce que c'est quand un événement quitte comme ça, il ne reviendra pas. Donc, on a beau se draper dans une espèce de vertu extraordinaire par rapport en disant que le F1 engendre telles choses néfastes. Toutes ces choses-là vont exister malgré ça, même s'il n'est pas ici. Donc, après ça, c'est un peu le concept de moi, j'aime pas voir, par exemple, des gens sans abri, mais j'en accueillerai pas chez nous, tu sais. T'sais, je veux pas l'avoir chez nous, mais si ça existe ailleurs, ça me dérange pas. T'sais, ce concept-là est un petit peu ridicule quand on sait que ça rend service à tellement d'entrepreneurs, ce Grand Prix-là. Ça met Montréal, encore une fois, sur la map du côté international. Comme Max a dit, probablement, j'ai pas entendu, mais il y a tellement de touristes qui viennent encore ici. Je veux dire, les hôtels sont pris de Drummondville jusqu'à Montréal. Tous les environs de la métropole, les hôtels sont complètement pris. Donc, c'est pas juste de l'argent qui rentre dans les poches de l'île de Montréal. C'est de l'argent qui rentre dans les poches de la province au complet. Et il en reste presque plus de cet événement-là, de cette magnitude-là à Montréal, surtout dans le sport. Et donc, faut faire attention parce que quand ces prix-là quittent, ils ne reviennent plus. C'est eux qui te rendent service en venant ici. C'est la F1 qui sont assez gentils, en tout cas, dans mon opinion à moi, pour accepter de venir à Montréal parce qu'ils pourraient aller ailleurs puis l'événement se tiendrait pareil puis ils recevraient leur argent quand même. Donc, il faut se rendre comme aimable et dire merci la F1 de venir ici puis on va rendre votre événement le plus agréable possible parce qu'on veut que ça continue de venir ici. On veut nourrir notre ville. On veut créer de la richesse puis il faut faire attention là-dedans de tout ce qu'on dit. Et comme électeur, comme membre de la ville de Montréal, ben, il faut être conséquent par rapport à ça dans pour qui on met au pouvoir là-dedans. Est-ce que ces personnes-là veulent de ce Grand Prix-là ou est-ce qu'ils aimeraient qu'ils quittent? Fondamentalement, j'ai des questions par rapport à ça. Je pense que des fois, on parle d'un côté et l'autre de la bouche. Mais c'est sûr que pour l'avenir, en tout cas, de la ville de Montréal, économique, le Grand Prix, je pense, en fait vraiment partie puis il faut le préserver.
Rappelle-toi, Arnaud, dans ta jeune vingtaine, en 2009, il n'y en avait pas eu de Grand Prix de Montréal. On avait annoncé en octobre 2008 qu'il ne reviendrait pas l'année suivante. Il n'y avait eu aucun Grand Prix en Amérique du Nord et le Grand Prix est revenu par la suite en 2010. On va parler de football puisque les Alouettes sont à Ottawa ce soir et Jason Moss semble en plein contrôle de son équipe.
Ouais, complètement. Puis je te dirais que je suis content de voir ça parce que j'avais des questions par rapport à le fait qu'on laisse partir Cody Fajardo, un vétéran qui connaissait le système pour laisser entrer Davis Alexander avec une équipe tellement talentueuse. Écoute, les Alouettes sont sortis le dernier match avec sensiblement la même genre de performance qu'on a vu de Cody Fajardo, mais de Davis Alexander, un carrière en contrôle, un carrière qu'on lui demande de faire des choses simples avec un meilleur bras que Cody Fajardo. Et a commis seulement un revirement, a été efficace, puis je pense qu'avec ça, on a réussi à passer sur le corps d'une des meilleures formations de la Ligue canadienne de football. Donc, c'est vraiment prometteur, je pense, pour les Alouettes, parce qu'on a une défensive extraordinaire. C'est vraiment la renaissance de Noel Thorpe, le coordinateur en défensive, qui, il y a quelques années, était sur le bord de plus jamais avoir un emploi dans la Ligue canadienne comme coordinateur, et finalement, se retrouve avec les Alouettes. Danny lui offre une seconde chance, une seconde chance. Et finalement, se revoit, en tout cas, moi, je pense qu'il est meilleur qu'il a jamais été Noel Thorpe en tant que coordinateur. Sa défensive répond à ce que ce gars-là appelle. Ils sont performants, ils sont dominants, et ils ont de la profondeur. Donc, j'adore ce que je vois de cette défensive-là. Les unités spéciales de Byron et l'offensive a qu'à juste faire ce dont ils ont besoin de faire, pas commettre trop de revirements, être efficace. Puis je pense qu'il réussit à le faire aussi avec beaucoup de profondeur au poste de receveur. Et même Sean Thomas Linton, la ligne à l'attaque, qu'on leur dit, garde. On coupe notre meilleur porteur de ballon, Walter Fletcher. Mais, on va donner 17 fois la balle à Sean Thomas, puis on a presque 100 verges au sol, juste avec Sean Thomas. Donc, je pense que les Alouettes, écoute, m'ont impressionné, puis Jason Moss en parfait contrôle de cette attaque-là. On n'en demande pas trop à Davis Alexander, puis j'ai bien hâte de voir, en tout cas, le match de ce soir. Les Ottawa étaient 7-1 l'année passée à la maison, mais Drew Brown ne sera pas là comme carrière partant d'Ottawa. Je pense que les Alouettes risquent de remporter encore ce match-là assez facilement.
Je prends deux secondes pour vous donner une nouvelle de dernière heure. Andy Strickland, qui couvre les Blues de Saint-Louis pour FanDuel Sports Network, vient d'annoncer que Mitch Marner ne re-signera pas avec les Leafs à Toronto. Mitch Marner et les Maple Leafs, c'est terminé. Alors, restera à voir où il va aboutir. En terminant, Thomas Bertrand-Hudon, athlète de Mont-Saint-Hilaire qui était les joueurs à Delaware State en NCAA, peut-il prendre le poste de premier demi-offensif des Rough Riders?
Écoute, j'aimerais ça. Puis Thomas Bertrand-Hudon, c'est un gars qui a été repêché en quatrième ronde, un peu en dessous du radar, mais il a qu'à regarder la dernière game qu'il a joué pour se rendre compte que ce gars-là est prêt à jouer. Il a eu un match extraordinaire. Il a bien paru autant en attrapant la balle qu'en bloquant, qu'en courant, en remplacement d'AJ Ouellet. Moi, si je suis les Rough Riders, puis je vais te parler un petit peu de... Il y a des positions dans la Ligue canadienne où on ne pense pas que des Canadiens peuvent jouer. Il y a seulement quelques équipes qui ont fait jouer des porteurs de ballon canadiens dans cette ligue-là. Winnipeg en fait partie, Montréal en fait partie. Mais sommairement, c'est une position qui est complètement américaine. Thomas Bertrand-Hudon, là, Saskatchewan, là, ils viennent d'aller chercher Kadeem Carey, qui est un vétéran américain pour remplacer AJ Ouellet. J'espère qu'on donne la balle à Thomas Bertrand-Hudon encore, parce que la performance qu'il a eue, ce gars-là est inarrêtable dans la Ligue canadienne de football. Il est parfait pour ce genre de ligue-là. Il est physique, il court nord-sud. C'est une révélation, puis j'espère que Thomas Bertrand-Hudon va lui laisser le poste parce qu'il y a des, les équipes de la Ligue canadienne, des fois, qui sont réticents à faire jouer des Canadiens, surtout à certaines positions, pour des raisons qui me sont très obscures. À part le passeport, je veux dire, t'as qu'à regarder le joueur jouer, puis c'est ça qui devrait déterminer s'il joue ou non. Mais qu'est-ce que tu veux? On vit ça encore dans la Ligue canadienne. Des fois, quand t'es Québécois ou t'es Canadien, ben, ton passeport prévaut sur le talent que t'es capable de mettre sur le terrain. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que les Rough Riders vont faire. C'est la mecque du football au Canada. Mais pour moi, Thomas Bertrand-Hudon, si vous avez une chance de le regarder jouer puis il joue, c'est un petit gars de chez nous, du Mont-Saint-Hilaire, qui a complètement dominé dans la mecque du football, de la Ligue canadienne au Canada. Fait que, on vote pour lui puis on aimerait ça qu'il continue à produire puis qu'il sera chaud de le laisser sur le terrain.
Arnaud, plaisir de te recroiser à la radio, à la télé ou au stade, mon ami. Je te souhaite un très bel été.
Salut, toi aussi.